Je vais vous présenter aujourd'hui notre conférencière. Il s'agit de Catherine Thibault. Elle est née en 1942. De formation, elle est ingénieure de l'École supérieure de physique et de chimie de Paris. Ça l'a amenée à des études de physique. Elle est docteur d'État en physique nucléaire. Sa carrière s'est déroulée au CNRS, où elle est actuellement directeur de recherche au Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse. Ces publications sont des publications scientifiques spécialisées et elle est spécialiste de l'étude par spectrométrie de masse de noyaux légers exotiques. Elle nous expliquera de quoi il s'agit, produits dans des réactions électroénergie, je suppose. Elle est membre de la Société française de physique et elle va nous parler d'un sujet, je crois, qui est fort énigmatique pour la plupart d'entre nous, l'antimatière. Et comme elle l'a rencontré, elle va pouvoir nous en dire quelque chose. Merci.
Voilà. Donc bonjour à tous et merci de vous être déplacés aussi nombreux un dimanche matin du mois d'août. Je vais essayer donc de vous parler d'un sujet qui intrigue, qui fascine ou qui fait peur quelquefois, qui est l'antimatière. J'ai pris un titre provocateur, l'antimatière existe, je l'ai rencontré, comme vous verrez, je l'ai rencontré, mais quand même pas trop près, puisque je suis aujourd'hui ici pour vous en parler. Je vais évoquer donc différents thèmes. Pour parler d'antimatière, il faut quand même avoir une petite idée de ce qu'est la matière, et je serai obligée tout de même d'en dire un certain nombre de choses, le moins possible. Pourquoi de l'antimatière? Comment c'est venu? Comment on l'a découverte? Où et comment produit-on de l'antimatière? Que faire avec cette antimatière? Et notre univers, qu'en est-il? Donc c'est un vaste programme. Alors, qu'est-ce que la matière? Eh bien, vous voyez, dans ma main, je prends un bloc de cuivre, par exemple. Bon, ma main est faite de matière. Le bloc de cuivre est également fait de matière. Et si maintenant, je suis capable, avec un très fort grossissement, de l'ordre de 1 million de fois, je vais regarder dans cette matière et je m'aperçois qu'il y a ici des particules qui sont très bien rangées. J'appellerai particules... de façon assez indistincte, quelque chose qui est petit, une petite partie de quelque chose d'autre. Et ces particules, ce sont ce qu'on appelle des atomes. Et là, il s'agit d'atomes de cuivre tous identiques. Si maintenant, je zoome sur un de ces atomes et que je suis capable à nouveau d'avoir un très fort grossissement, à chaque fois, il faut dans les 100 000, je m'aperçois que ces atomes sont constitués d'une part d'un centre, un noyau très petit, beaucoup plus petit que sur le dessin, et par rapport à l'entourage, est très dense. Ce noyau est chargé électriquement de charges positives, et autour de ce noyau, très loin, gravitent des électrons, qui sont des particules qui ont une masse assez légère, et qui ont chacun une charge électrique négative par définition, je dirais. Dans le cas du cuivre, il y en a 29. Le nombre de ces électrons détermine les propriétés chimiques de l'élément, le cuivre en l'occurrence par exemple, et le noyau lui-même a une charge positive égale au nombre d'électrons, 29 charges positives. Si maintenant je peux encore faire un zoom et regarder dans le noyau ce qui s'y passe, je m'aperçois que le noyau n'est pas du tout une particule, mais qu'il est lui-même composé d'un assez grand nombre de particules qui sont de deux sortes, d'une part des protons, qui ont une charge électrique positive, et il y en a autant que d'électrons qui gravitaient autour du noyau. Dans le noyau de cuivre, il y a 29 protons. Et puis, il y a un certain nombre de neutrons. Dans le cas du cuivre naturel que nous connaissons, eh bien, il y a 34 neutrons. Si je regarde maintenant à l'intérieur de ces protons et de ces neutrons, je m'aperçois qu'eux-mêmes sont composés de particules plus petites qui sont des quarks et qui sont composés chacun de 3 quarks. Actuellement, on pense que l'électron est ce qu'on appelle une particule élémentaire ou fondamentale parce qu'on pense qu'il n'y a pas de structure à l'intérieur de l'électron. On pense aussi que le quark est une particule fondamentale, que n'est probablement pas divisible en d'autres particules plus petites, mais c'est moins certain. Dans la suite, je vous parlerai souvent des protons et des neutrons et de l'électron, Je parlerai aussi un peu des quarks et de quelques autres particules quand même. Alors, comment est venue cette idée d'antimatière? Eh bien, au départ, à la fin du 19e siècle, Maxwell a réussi à décrire tous les phénomènes électriques et magnétiques par un ensemble de lois qui sont les lois de l'électromagnétisme. Et comme ça, il pouvait décrire le mouvement d'un électron qui est à l'origine du courant électrique. Puis, en 1906, est venue la relativité restreinte avec Albert Einstein. Et là, ça a commencé à compliquer les choses parce qu'on s'est aperçu que lorsque les particules ont une vitesse qui est très proche de la vitesse de la lumière, les lois sont différentes. Puis, en 1926, la mécanique quantique avec Schrödinger est venue. Et là, on s'est aperçu que l'électron, en plus, avait ce qu'on appelle un spin. Ce spin ne peut avoir que deux valeurs, plus 1,5 ou moins 1,5, c'est pourquoi on parle de mécanique quantique, de quantum. Et l'image que l'on peut se faire du spin, c'est que la particule tourne sur elle-même et que selon que le spin est plus 1,5 ou moins 1,5, il va spiraler dans un sens ou spiraler en sens inverse, un petit peu comme un tire-bouchon. Et les équations de Schrödinger permettaient de décrire le comportement d'un électron avec son spin, mais à condition qu'il ait une vitesse très faible. Et il fallait arriver à décrire le comportement d'un électron avec son spin, même quand il a une vitesse proche de celle de la lumière, et à ce moment-là, on dit qu'il est relativiste. Et c'est un physicien anglais, Paul Dirac, qui s'est attaqué à ce problème et qui a réussi, en 1929, à établir les lois nécessaires. Il n'avait alors que 27 ans. Mais il a été tout de suite confronté à un problème. Ce problème, c'est que son équation a deux solutions. Une des solutions convient très bien, c'est pour l'électron. Elle décrit très bien le mouvement de l'électron relativiste avec son spin, tout va bien. Par contre, la deuxième solution correspondait à un électron qui aurait eu une énergie négative. Ça, les énergies négatives, les physiciens n'aiment pas du tout, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, il a cherché une interprétation. Plus simple, l'interprétation était en fait de supposer que ce soit une particule qui ait une charge positive. Et à ce moment-là, son énergie aussi était positive. Mais la seule qu'il avait à se mettre sous la main, la seule qu'il connaissait à l'époque, c'était le proton. Donc il a suggéré que ce soit le proton. Et Oppenheimer a fait remarquer, vers 1930, que l'année d'après, que ce n'était pas très plausible comme solution, parce que l'équation mathématique est très jolie, très symétrique. Et on donne comme réponse qu'une des solutions, c'est l'électron, et que l'autre, c'est le proton. Et le proton, il a une masse 2000 fois plus grande que celle de l'électron. Ça ne fait pas très net comme affaire. Alors, finalement, Dirac, poussé dans ses retranchements, a fini par suggérer que c'est peut-être une particule qu'on ne connaît pas. On va l'appeler un anti-électron. Ça serait comme un électron, mais vu dans un miroir un petit peu spécial, qui, en plus d'être l'image dans un miroir, transforme toutes les charges électriques en des charges de signe inverse. Et donc, cet anti-électron qu'on a appelé le positon, il est comme l'électron, sauf qu'il a une charge électrique positive. Et ce qui est étonnant, c'est que très peu de temps après, en 1932, Carl Anderson, qui était un physicien qui étudiait les rayons cosmiques, c'est ce rayonnement de très grande énergie qui nous arrive de tout l'univers et qui passe à travers l'atmosphère pour arriver, une partie arrive jusqu'à nous. Et il avait des détecteurs dans lesquels il y avait des champs magnétiques. Or, dans un champ magnétique, les particules tournent dans un sens ou dans l'autre selon le signe de leur charge. Et il observait beaucoup d'électrons, mais il a observé aussi quelques électrons qui tournaient à l'envers dans son détecteur. Donc, il s'est aperçu qu'il avait des électrons. C'était comme des électrons, mais ils avaient une charge positive. Et évidemment, rapidement, on s'est rendu compte qu'il avait découvert ce fameux anti-électron, ce positon, prédit par Dirac. Alors, à ce moment-là, évidemment, quelle est la tentation? C'est de se dire, pourquoi pas la même chose pour les autres particules? Puisque pour l'électron, on a le positon. Pourquoi n'aurait-on pas pour le proton aussi un antiproton qui aurait la même masse et qui aurait une charge électrique négative? Pour le neutron, un antineutron. Et puis, pour le photon gamma, ce qui est la particule porteuse de la force électromagnétique, mais qui est la lumière et les rayons X, eh bien, on pourrait aussi avoir un antiphoton. Et là, il y a une bizarrerie, c'est qu'on s'aperçoit que cet antiphoton, en fait, c'est le photon lui-même, il est sa propre antiparticule. Donc voilà bien une des bizarreries déjà de l'antimatière. On connaît une deuxième antiparticule, c'est l'antiphoton, parce que c'est le photon lui-même. Alors pour découvrir, la question était, cet antiproton existe-t-il ? Et pour ça, il faut arriver à fabriquer des antiprotons. Comment faire pour fabriquer des antiprotons ? Eh bien, pour fabriquer de l'antimatière, la recette, c'est la matérialisation avec l'équation d'Einstein, E égale mc2. Si on a de l'énergie, pour avoir de l'énergie, on fait des collisions en accélérant des particules et elles vont aller cogner quelque chose d'autre. À ce moment-là, on va avoir de l'énergie disponible. Cette énergie va se transformer, en fait, non pas seulement en matière, mais en réalité, en autant de matière que d'antimatière exactement. On va faire toujours des paires particules et antiparticules. La difficulté pour le proton, c'est, comme je l'ai dit, sa masse est 2000 fois plus grande que la masse de l'électron. Donc il va falloir une énergie pour créer une paire proton-antiproton. L'énergie nécessaire est 2000 fois plus grande que celle qui était nécessaire pour créer une paire électron-positon. Ce qui fait que dans le rayonnement cosmique, par interaction avec l'atmosphère, on pouvait observer pas mal de positons. Mais pour les antiprotons, c'est plus difficile. Il y en a beaucoup moins. Et on ne les a pas trouvés de cette façon-là. Alors, quand a-t-on justement découvert de l'antimatière ? Eh bien, en 1932, c'était le positon dans les rayons cosmiques. Il a fallu 23 ans pour qu'on arrive à découvrir l'antiproton, puis l'antineutron l'année d'après, et ceci grâce au fait que les Américains ont construit un accélérateur absolument dans ce but pour avoir des particules qui aient suffisamment d'énergie pour créer cette fameuse paire proton-antiproton ou neutron-antineutron qui a à peu près la même masse. Par la suite, on a vu des choses plus bizarres dans les années 65-70. On a pu observer de temps en temps la création de noyaux un petit peu plus compliqués qui avaient un ou deux antiprotons avec un ou deux antineutrons. Celui-ci qui est un isotope de l'hydrogène, le deutérium, H2, ici le H3 qui est le tritium, et puis de l'hélium aussi. Ces découvertes ont été faites aux États-Unis à Brookhaven, en URSS à Serpukhov et au Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, en Europe, qui étaient les endroits où il y avait des gros accélérateurs pour ces découvertes. Enfin, je voudrais signaler qu'en 1996, pour la première fois au CERN, on a pu faire quelques antiatomes d'hydrogène. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple qu'on puisse imaginer. Son noyau, c'est juste un proton, et il y a un électron qui gravite autour. Donc, on peut penser faire un antiatome cette fois-ci. Ici, c'était seulement des noyaux, il n'y avait pas de positon autour. Là, pour un antinoyau, on va avoir un antiproton avec un positon qui gravite autour. Et ça, c'est difficile à faire, parce que c'est comme si vous aviez une voiture de course qui passe à proximité d'un manège de chevaux de bois, et vous voulez capturer cette voiture de course pour qu'elle se mette à tourner simplement avec les chevaux de bois pour faire une petite auto du manège. Et c'est à peu près ce problème. Alors, ce qui a été fait, là, en 1996, il y en a eu 9 de vues, simplement. Et ils ont été juste vues. On n'a rien fait d'autre avec. Alors, autre question, que devient l'antimatière ? Quand on a créé de la matière, qu'est-ce qu'elle devient ? Eh bien, là, c'est ce qu'on appelle l'annihilation. Tant que ces antiparticules vont vite, en fait, elles ne réagissent pas trop. Elles réagissent à peu près la même chose que des particules. Mais au moment où elles n'ont plus d'énergie, s'il y a de la matière à proximité, alors elles s'annihilent. Elles s'annihilent, c'est l'inverse de l'équation d'Einstein. Cette fois-ci, on fait matière plus antimatière, et ça donne de l'énergie. Et cette énergie, finalement, à la fin, ce sont toujours des photons gamma. Donc, de la lumière, des rayons X. Alors, par exemple, un électron plus un positon vont pouvoir donner 2 photons gamma. Ou bien, un proton plus un antiproton vont s'annihiler, donner plein d'autres paires de particules, antiparticules plus légères, mais tout ça est tout à fait instable, et ça va aussi finir, finalement, avec plein de photons gamma. Alors, ça veut dire que pour conserver de l'antimatière, bien évidemment, il faut la mettre à l'abri de la matière. Il faut donc qu'elle soit dans un vide excellent et qu'elle n'aille jamais toucher des parois. Alors, je voudrais maintenant parler de quelque chose d'assez curieux, qui est le fait qu'il y a aussi de la matière Il y avait en fait de la matière dans la radioactivité. Alors, la radioactivité, je vais rappeler ce que c'est. Ici, j'ai dessiné des petits carrés de différentes couleurs. Chaque carré représente un noyau différent. Sur une même ligne sont des noyaux qui ont tous le même nombre de protons. C'est donc le même élément chimique, puisqu'ils auront le même nombre d'électrons dans l'atome et les mêmes propriétés chimiques. Alors, avec 6 protons, il s'agit de carbone. Avec 7, il s'agit d'azote. Avec 8, de l'oxygène. 9, c'est le fluor. 10, le néon. 11, le sodium, par exemple. Et quand on va de gauche à droite, il y a de plus en plus de neutrons. J'ai indiqué ici en bleu les noyaux qui sont stables. Vous voyez qu'il faut à peu près le même nombre de neutrons ou légèrement plus de neutrons pour avoir des noyaux stables. Si maintenant, donc je regarde par exemple le cas du fluor, il y a un seul noyau stable de fluor, il a 9 protons et 10 neutrons, et on l'appelle le fluor 19, 9 plus 10. Si maintenant je rajoute des neutrons, c'est toute la zone verte, il y a trop de neutrons, les noyaux sont instables, ils sont radioactifs. C'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta- qui est celle qui nous est le plus familière. Si je prends le cas du fluor 20, il va se transformer en néon 20. Pourquoi ? Parce que un de ces neutrons, le neutron qui est en excès, va se transformer en proton et en électron. Il va donner aussi une antiparticule qui est l'antineutrino, mais qu'on ne détecte que très très difficilement. Si maintenant j'ai un neutron de moins que ce qu'il faut, eh bien les noyaux sont également instables. Ce sont tous les noyaux qui sont indiqués ici en rouge. Et le fluor 18 il va être radioactif, mais cette fois-ci il s'agit de radioactivité bêta+. Et il va se désintégrer pour donner de l'oxygène 18. Et cette fois-ci, puisque c'est un neutron qui manque, eh bien c'est le proton qui se transforme en neutron. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en même temps, il émet un positon E+, donc il émet de l'antimatière. Alors, si on fait, c'est vrai de ce fluor 18, on va avoir la même chose ici, par exemple, l'oxygène 15, l'azote 13, le carbone 11. Ces noyaux radioactifs ont des durées de vie qui se chiffrent dans les minutes, disons, entre la demi-heure et deux heures. Et ils sont très utiles, et très utilisés, et déjà pas mal utilisés, puisqu'on peut faire de l'imagerie médicale grâce à l'antimatière. C'est ce qu'on appelle la tomographie par émission de positons. On injecte au patient un composé radioactif bêta+, par voie intraveineuse. Ce composé va contenir un des noyaux radioactifs dont je vous ai parlé, de fluor, carbone, azote ou oxygène. On produit ce noyau radioactif grâce à des réactions nucléaires avec un petit cyclotron. Puis, immédiatement après, on fait éventuellement de la chimie. Par exemple, pour incorporer le fluor 18, dont la durée de vie est 110 minutes, ça fait à peine deux heures, dans un composé qui est du fluorodéoxyglucose. Ce composé, c'est un glucose qui va aller se fixer très rapidement sur les tumeurs cancéreuses et aussi dans un certain nombre d'organes. Alors, on met ensuite le patient ici allongé, avec ici on s'intéressait à son cerveau, et donc on lui met des détecteurs là tout autour de la tête. Et c'est schématisé ici, le patient, là ce sont ses épaules, et puis sa tête ici, et dans sa tête, dans son cerveau, vous avez du fluor 18, qui était dans le glucose, qui se désintègre. À ce moment-là, il va donner un positon, qui va tout de suite rencontrer un électron dans la matière du cerveau, bien évidemment, ils vont s'annihiler et donner deux gammas. Ces deux gammas partent dos à dos. Et ils vont être détectés dans cette couronne de détecteurs et on va pouvoir savoir où était le fluor 18 et donc le glucose qu'il a émis. C'est extrêmement sensible comme méthode. Alors on peut faire de très belles images d'organes mous qu'on ne peut pas voir en radiographie, par exemple. Ça c'est l'image, alors là ce n'est pas un cerveau, c'est le rein d'un rat par émission de positons. Et je vais vous montrer ensuite une application, un exemple d'application médicale. On peut en particulier déceler les tumeurs très très petites. On peut aussi suivre l'efficacité d'un traitement thérapeutique. Là, il s'agissait d'un malade de 35 ans qui avait une maladie de Hodgkin. Et c'est un cancer des ganglions. Et on l'a étudié. Il a été passé à la tomographie par émission de positons. Et on voit qu'avant le traitement par chimiothérapie, il a ici une tumeur très importante au niveau du cou et du haut du thorax. Et après la fin de la, un mois après la fin de la chimiothérapie, on voit que c'est extrêmement propre, qu'il est très bien guéri, et c'est très sensible pour vérifier la totalité de la guérison. Un autre intérêt de ce système, c'est que comme il est très sensible et qu'il réagit très vite, qu'on a très vite l'information, on peut aussi l'utiliser pour faire des études de la recherche en biologie, en particulier sur le fonctionnement du cerveau. Parce qu'avec la résonance magnétique, on peut aussi faire des images du cerveau qui sont très bonnes. Mais ce sont des images statiques. Tandis qu'avec les positons, avec des volontaires, on leur demande d'exécuter une tâche ou une autre, et on peut voir quelle partie du cerveau consomme du glucose. Et on sait donc quelle partie du cerveau travaille selon qu'on va lui faire traduire du français en anglais ou lui dire de lever la main droite ou de lever le pouce gauche. Alors, je vais en venir maintenant à une partie plus difficile peut-être. On a vu que c'était donc utile pour faire de l'imagerie médicale, que c'était aussi utile pour la recherche en biologie. Mais évidemment, les physiciens s'intéressent beaucoup à l'antimatière. Et la première des utilisations a été d'utiliser l'antimatière comme un outil, en fait. Alors, un outil, pourquoi ? Parce qu'on va faire avec cela des collisionneurs. Alors, pourquoi des collisionneurs et pourquoi grâce à l'antimatière ? Eh bien, la première chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les physiciens des particules sont toujours à la recherche d'une nouvelle particule plus lourde, plus lourde, plus lourde. Parce que les théoriciens sont toujours en train d'inventer des nouvelles particules. Je vous ai parlé du positon, ensuite on a imaginé l'antiproton, mais les théoriciens sont des gens très imaginatifs. Et donc, ils proposent régulièrement l'existence de nouvelles particules, mais elles sont évidemment de plus en plus... elles ont une masse de plus en plus grande, et il faut donc de plus en plus d'énergie pour arriver à les produire. Et là, je dois vous faire un tout petit aparté sur l'unité d'énergie qui est utilisée en physique nucléaire. Cette unité, c'est l'électron-volt, que l'on appelle EV. C'est une très petite unité, puisque c'est l'énergie d'un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. La masse de l'électron, qui est une particule que l'on considère comme très légère, correspond déjà à une énergie de 500 000 électron-volts. La masse du proton et du neutron correspond à 1 milliard d'électron-volts. 1 milliard d'électron-volts, c'est ce qu'on appelle un giga-électron-volt et qu'on note GeV. Donc pour faire des particules qui ont des masses encore plus grandes, vous voyez qu'il va falloir disposer de dizaines, voire de centaines, ou éventuellement de milliers de milliards d'électron-volts. Et là, on a un problème, parce que quand on envoie une particule, qu'on a par exemple accélérée à une énergie de 200 milliards d'électron-volts, qu'on l'envoie faire une collision sur une cible qui est de la matière immobile, eh bien, à cause de la relativité restreinte, l'énergie dont on dispose est tout à fait ridicule. On va pouvoir utiliser pour fabriquer les paires de particules et d'antiparticules uniquement d'une vingtaine de milliards d'électron-volts, c'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'on avait mis au départ. Par contre, si on est capable de faire entrer en collision frontale une particule de la même énergie avec une autre, ou bien une antiparticule, peu importe, qui a la même énergie, mais on fait une collision frontale, alors on dispose de la somme des énergies. Donc vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi on s'est intéressé plutôt aux antiparticules ? Eh bien, c'est toujours parce que une particule et une antiparticule, elles ont des charges électriques inverses. Si je prends le proton et l'antiproton, ils ont des charges électriques l'un positif, l'autre négatif. Et dans un accélérateur, on fait généralement tourner les particules dans un anneau et la trajectoire est courbée grâce à des aimants, grâce à des champs magnétiques. Si bien que si on a construit un anneau qui est capable d'accélérer et de conserver dans l'anneau des protons, par exemple, et bien le même anneau, on pourra faire circuler dedans les antiprotons en sens inverse sans ajouter un centime de plus, sans construire rien de plus. Donc c'est un moyen très économique, du point de vue technique et du point de vue financier, ça peut constituer une importante économie. Alors ça a été fait, je vais vous montrer au CERN en particulier. Je vais faire juste une petite présentation du coût du CERN. Le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, a actuellement 20 États membres, dont vous voyez ici quelle est la répartition dans l'Europe. Il y a maintenant quelques pays de l'Est. Il est implanté à Genève, près de Genève, sur la frontière franco-suisse. Et vous voyez ici, avec les petites croix, est matérialisée justement cette frontière. Dans la partie basse de la photo, c'est la Suisse. Ici, c'est l'aéroport de Genève. Dans la partie haute de la photo, c'est la France, avec au fond, on ne voit pas très bien, mais c'est souvent le cas, il y a beaucoup de nuages, c'est le Jura. Et on a aussi matérialisé deux anneaux qui sont les deux accélérateurs les plus grands du CERN. Ces accélérateurs sont souterrains, ils sont dans des tunnels, c'est pour ça qu'il a fallu les redessiner. Alors, le plus grand ici, c'est un anneau dans lequel on fait des collisions électron-positon. Il a à peu près 35 km de circonférence, c'est-à-dire que c'est à peu près la même chose que le boulevard périphérique parisien. Donc, vous pouvez imaginer ici, vous avez la ville de Paris là-dedans. Il a, dans le tunnel, il n'a pas le métro, mais tout de même, voilà le tunnel de cet accélérateur qui s'appelle le LEP. Dans les tuyaux, là, circulent les électrons et les positons. Et vous avez ici, quand même, vous voyez, un petit train, un monorail qui sert, quand l'accélérateur est arrêté, évidemment, à faire la maintenance et à faire les transformations nécessaires. L'autre anneau, qui est un peu plus petit, est un anneau qui sert actuellement essentiellement à pré-accélérer les particules pour les envoyer dans le grand, mais il a servi à faire des collisions proton-antiproton. Et je vais vous décrire maintenant ce système en vous montrant plus en détail cette partie ici. Alors, voilà. C'est schématisé sur ce dessin. Vous voyez ici un petit bout de l'anneau le plus petit de des deux qu'on voyait donc tout à l'heure sur la photo. Et on va essayer d'injecter dedans des protons et des antiprotons. Alors, il faut d'abord avoir des protons au départ. On utilise une source. Une source de protons, c'est tout simplement d'avoir une bouteille d'hydrogène. Et puis, on va accélérer dans un premier petit accélérateur. Celui-là n'est pas très grand. Vous en avez une photo ici. On l'appelle un LINAC parce qu'il est linéaire. Les particules sont accélérées chaque fois qu'elles passent d'une cavité à la suivante. Ensuite, on va injecter les particules qui ont quelques millions d'électronvolts dans un premier petit anneau qui va les accélérer vers 1 milliard d'électronvolts. Et ensuite les envoyer dans un anneau encore un petit peu plus grand qui va les accélérer à une vingtaine de milliards d'électronvolts. Alors cet anneau-là, vous voyez, c'est plus petit que tout à l'heure, on voit la courbure là. Celui-là n'est pas vraiment enterré, mais il est protégé par des blocs. Vous voyez ici, le faisceau passe dans cette partie-là, et tout ça, ce sont des aimants qui servent à guider le faisceau, et puis des éléments d'accélération et de focalisation. Ensuite, ces protons que l'on suit, donc qui sont toujours en vert, donc ils ont fait tout ça, et on peut les injecter dans ce grand accélérateur qui va lui les accélérer à 300 milliards d'électronvolts. Ils vont tourner comme ça. Mais on peut aussi ici interposer une cible. Et cette cible, l'interaction entre les protons accélérés et cette cible va permettre, les collisions vont permettre de créer des paires protons-antiprotons. Mais ce n'est pas très efficace, et il y a seulement un proton sur 100 ou un proton sur 1000 qui va donner naissance à une paire proton-antiproton. Et ensuite, on va essayer de sélectionner des antiprotons et de les capturer dans un petit anneau ici qui va permettre de les stocker. Alors, cet anneau est petit, vous voyez, ici, on le voit en entier. Donc, mais c'est dans cet anneau, on a stocké beaucoup d'antiprotons. C'est difficile de les mettre dans cet anneau parce que c'est un peu comme quand vous arrosez votre jardin l'été et qu'il fait sec, ce n'est pas le cas cette année, mais d'autres années, vous mettez votre arrosage pour arroser tout votre gazon. Et puis à ce moment-là, arrive un enfant qui a très chaud et qui dit « Ah, je vais remplir ma bouteille avec l'arrosage. » Eh bien, ce n'est pas facile, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans la bouteille. Et là, c'est tout à fait pareil. Ce qu'on arrive à mettre dans l'anneau, ce n'est pas mieux que 1 sur 1000. Mais une fois qu'ils sont stockés là, par contre, on peut les garder longtemps. Il n'y a pas de problème, il y a un très bon vide. Et on va pouvoir, quand on en a besoin, les faire en éjecter et les renvoyer dans le même anneau. Ici, ils vont tourner en sens inverse, les protons tournés comme ça. les antiprotons, eux, vont tourner dans ce sens-là et vont pouvoir aussi être accélérés et envoyés dans ce SPS où ils vont tourner dans l'autre sens et on va donc pouvoir organiser des collisions protons-antiprotons. Une autre possibilité aussi de cette installation, dont je parlerai tout à l'heure des utilisations, c'est qu'au lieu d'accélérer les antiprotons ici, on peut au contraire les garder à une énergie assez basse et les envoyer ici dans ce tout petit anneau qui va encore, lui, diminuer leur énergie. Celui-là, c'est un décélérateur qui s'appelait LIR, Low Energy Antiproton Ring. Et on va pouvoir, à partir de cet anneau, envoyer des antiprotons dans différentes expériences. Là, une photo de ce hall où sont installées les expériences est là. Et donc, dans les différents tuyaux que vous voyez ici, on peut faire circuler des antiprotons et les envoyer dans différents détecteurs. Ici, ce détecteur-là, par exemple, s'appelait Obélix, celui-là, Crystal Barrel, et celui-là, c'est Pellir. Et je vais vous parler tout à l'heure d'une expérience qui a été faite avec ce détecteur. Donc vous voyez que là, on est capable, exactement comme des faisceaux de protons, on est capable de faire circuler des faisceaux d'antiprotons. Il suffit d'inverser les champs magnétiques. Alors qu'a-t-on découvert grâce à ces collisions matière-antimatière ? Eh bien, avec des collisions entre protons et antiprotons dans l'installation que je vous ai décrite au CERN, ils ont pu découvrir trois particules prédites par les théoriciens, qui sont le W+, le W- et le Z0. Ce sont des porteurs de force, de la force dite faible, en l'occurrence. Et ces particules étaient très massives, puisque leur masse correspond à une énergie de 90 milliards d'électronvolts, c'est-à-dire presque 100 fois plus que la masse du proton ou du neutron. Cette découverte a été faite en 1983 et elle a valu le prix Nobel à Carlo Rubbia et Simon Vandermeer quelques années après. Aux États-Unis, à Fermilab, près de Chicago, ils ont fait une installation qui a été un peu plus tardive, mais qui disposait de plus d'énergie qu'au CERN. Ils ont pu découvrir en 1995 le dernier quark qui manquait. Les quarks, dans la matière ordinaire, il y a deux quarks, mais il en existe en fait quatre autres, et on n'en connaissait que trois sur les quatre, et les théoriciens pensaient qu'il y en avait encore un à trouver, qui a été trouvé en 1995. Mais on voyait que là, il fallait encore deux fois plus d'énergie. Avec les collisions électron-positons, au CERN, on a pu, dans le grand anneau, celui qui est comme le boulevard périphérique, on a pu étudier de façon très fine les propriétés justement de ces particules W+, W-, Z0, et on recherche une autre particule qui s'appelle le Higgs, qui donne de la masse aux particules. Alors, un dernier point. Là, donc, c'est les utilisations à haute énergie, et par contre, justement, quand on arrive à diminuer l'énergie, donc diminuer la vitesse des antiprotons, on va pouvoir les stocker dans un autre type de système que j'appelle, les physiciens mettent les antiprotons en bouteille, parce que, en effet, on les stocke dans un système qui est un peu comme une bouteille. Dans ce système, il y a un champ magnétique très fort. Ce champ magnétique fait que les particules vont tourner, mais elles ont une énergie très faible. Là, on arrive à la fin à les ralentir jusqu'à quelques électronvolts. Et du fait qu'ils tournent, ils sont confinés là à l'intérieur. Et pour les empêcher de s'échapper par le haut ou par le bas, on met ici des chapeaux qui sont à des tensions électriques qui repoussent l'antiproton, si bien qu'il est confiné là à l'intérieur de ce piège électrostatique qu'on peut appeler aussi une bouteille. Les dimensions typiques de cet objet-là, c'est quelques centimètres. Donc vous voyez que c'est très différent. Tout à l'heure, on était dans un anneau qui était quand même assez grand. Là, c'est quelques centimètres. Par contre, il y a tout un système autour qui fait que quand même l'objet en entier fait plutôt 8 ou 10 mètres quand même. Alors ça a beaucoup d'intérêt, ces pièges, parce qu'on peut alors se mettre vraiment à étudier l'antimatière à partir du moment où elle est stockée dans ce type de bouteille. Alors, une des questions qui se pose, c'est, je vous ai dit, particules, antiparticules ont la même masse, elles ont la même durée de vie aussi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, pour cela, on peut, dans ce piège, tout à fait le trouver. la fréquence, parce que la fréquence de rotation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il tourne, varie en sens inverse de la masse, en proportion inverse de la masse. Et au CERN, en 1999, a été publiée une valeur de le rapport entre la masse de l'antiproton et du proton. Vous voyez que la valeur est 1, avec une dizaine de zéros derrière. C'est-à-dire que c'est comme si on pesait un camion de 10 tonnes à 1 mg près. C'était fait par une équipe américaine. Alors maintenant, puisqu'on sait stocker éventuellement l'énergie, on peut aussi avoir d'autres idées d'utilisation de l'énergie que celles vraiment des physiciens. En particulier parce que c'est un carburant extrêmement efficace. On convertit de la masse en énergie de façon très efficace. Si je prends comme référence l'énergie chimique avec de l'hydrogène et de l'oxygène que l'on regroupe en molécules d'eau, eh bien, si maintenant on fait de la fission d'uranium-235, c'est le type de réaction qui est utilisé dans les réacteurs nucléaires pour fabriquer l'électricité. Eh bien, pour la même masse de carburant, on a 30 000 fois plus d'énergie. Si maintenant j'arrive à faire de la fusion, par exemple de deux noyaux de deutérium, qui ont chacun un proton et un neutron, j'arrive à faire fusionner en un seul noyau, ici d'hélium, pour la même quantité, même masse de carburant, je vais avoir 200 000 fois plus d'énergie. Ça, ces réactions-là, c'est ce qu'on aimerait arriver à faire sur Terre, et on a bien du mal, mais c'est ce qui marche très très bien dans le Soleil. C'est de là que nous vient c'est de là que le Soleil tire son énergie. Enfin, si on fait une annihilation proton-antiproton, ça va être 30 millions de fois plus d'énergie qui sera récupérée. Mais il y a une difficulté, c'est qu'ici, les carburants sont tous des carburants que l'on trouve sur Terre. Ici, il y a une partie du carburant, l'antiproton, qu'il faut d'abord fabriquer. Alors, combien sait-on stocker d'antiprotons pour avoir une idée des possibilités d'application? Eh bien, j'ai pris combien peut-on stocker en 100 000 ans? J'ai une échelle ici, vous avez un gramme, et puis ça divise par 1000 à chaque fois. Ici, un millième de gramme, un millionième, un milliardième, etc. Eh bien, dans un anneau, on est capable de stocker quelque chose comme 1/100 de milliardième de gramme seulement. Et en 100 000 ans, on pourrait arriver à produire 1 mg. Ceci, si on fait marcher à plein temps un accélérateur comme celui du CERN ou comme celui de Fermilab. Alors évidemment, on peut en faire marcher plus. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas franchement stocker. Parce que ça, c'est ce qu'on sait stocker et on sait dans un seul anneau. Et si on veut stocker beaucoup plus, il faut beaucoup d'anneaux. Dans une bouteille, c'est encore pire, parce que là aussi, quand on fait entrer les antiprotons dans la bouteille, c'est encore l'histoire de l'arrosage. Là aussi, il n'en rentre que 1 sur 1000, parce qu'on arrose assez large et il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de rentrer dans le piège. Et là, du coup, on en stocke encore beaucoup moins. Et en 100 000 ans, on peut espérer avoir un millionième de gramme. Mais là aussi, la quantité que l'on sait stocker en une seule bouteille, comme je vous ai montré, c'est cette quantité-là qu'on est capable de produire en fait en quelques jours. Et pour le moment, non seulement la production c'est très long, on pourrait gagner évidemment, probablement diviser par 100, je dirais, les temps nécessaires, mais on ne sait vraiment pas stocker des grandes quantités, on sait stocker, mais de toutes petites quantités pour le moment. Alors de l'énergie, pourquoi faire? Eh bien, donc de l'électricité, vous comprenez bien que ce n'est pas la peine d'y penser. C'est vraiment un mirage, puisqu'il faut d'abord fabriquer les antiprotons, et que pour fabriquer les antiprotons, on dépense actuellement 100 millions de fois plus d'énergie qu'on en récupère, et de toute façon, le bilan sera toujours désastreux. Il faudra toujours plus d'électricité pour les fabriquer que ce qu'on récupérera après. Une application qui serait intéressante, c'est de soigner avec des antiprotons au lieu des protons. Je vous ai parlé d'imagerie médicale, mais on pourrait aussi penser à faire de la thérapie. On fait de la protonthérapie actuellement. Le problème, c'est qu'on envoie les protons, on fait tous les calculs, pour que les protons ils aillent bien faire du dégât dans la tumeur cancéreuse que l'on veut détruire. Et pour ça, il faut, un, calculer comme il faut, deux, il faut tenir la tête du patient très immobile, etc. Et on risque toujours de taper à côté. Tandis qu'avec des antiprotons, on pourrait, grâce à l'émission des gamma au moment de l'annihilation, on pourrait en temps réel savoir si on tape bien dans la tumeur ou si on tape à côté et on pourrait tout de suite rectifier le tir. Alors ça, ça serait très intéressant. Je dirais c'est un rêve, c'est peut-être possible au point de vue des quantités. Je pense qu'il faut des quantités beaucoup plus faibles que pour la protonthérapie, et c'est probablement possible, mais c'est évidemment très coûteux, et pour le moment, ça n'est pas utilisé nulle part. Il y a en plus peu d'installations avec des antiprotons, parce que pour le moment, il y a le CERN, il y a Fermilab aux États-Unis, et il va y avoir les Japonais. Alors, d'autres idées sont souvent émises, en particulier du carburant pour les fusées. Ça, c'est l'Enterprise dans Star Trek, marche avec un moteur à antimatière. Et c'est extrêmement efficace parce qu'il suffit d'avoir des microgrammes. Donc, c'est un carburant, vous avez un carburant à emporter qui est extrêmement léger. Vous pouvez aussi avoir beaucoup plus de puissance et aller beaucoup plus vite. Donc faire des missions beaucoup plus rapides, Terre-Mars par exemple peut-être en quelques jours au lieu d'avoir des années, faire aussi des missions qui sont impossibles, par exemple aller au centre de la galaxie. Parce qu'actuellement, d'une part on ne va pas vite et puis si on va loin, il faut plus de carburant. Et si on rajoute du carburant, à un moment donné, il faut du carburant pour emmener le carburant. Et donc on ne peut pas faire. Enfin, il y en a évidemment aussi qui pensent éventuellement à faire des armes. Là, il faut peut-être plutôt vers le milligramme. Enfin, avec quelque chose qui doit être à peine un gramme, on peut faire sauter toute la ville de Paris. Mais heureusement, cette application, on est probablement encore loin de la voir se réaliser. Il faut aussi ne pas oublier que transporter des antiprotons, en bouteille, ça a été fait. Des antiprotons ont pu être gardés dans la bouteille que je vous ai montrée, transportés aux États-Unis et baladés pendant un mois. Mais il ne faut pas qu'il y ait de coupure d'électricité, sinon les antiprotons tapent les parois de la bouteille et tout saute. Alors, ça fait que pour le moment, c'est surtout aussi un sujet d'étude pour les physiciens. Évidemment, ça les intéresse beaucoup. Alors, on peut faire des tas de choses. Je vais en citer rapidement deux et puis insister sur une troisième. Une possibilité qui a été pas mal étudiée dans les années 90, c'est que quand on a un atome, donc on a le noyau avec les électrons qui gravitent autour, et comme la charge de l'antiproton est négative, comme celle de l'électron, on peut arriver à remplacer un électron par un antiproton. Alors là, le système est assez instable, il ne dure pas long, il s'écroule très rapidement, mais ça donne quand même le temps de faire des études extrêmement intéressantes. On peut aussi, je l'ai signalé tout à l'heure, fabriquer donc des antiatomes d'hydrogène. Donc, au lieu du proton et de l'électron, on a un antiproton et un positon. Ce qui a été fait au CERN, c'était juste 9 antiatomes d'hydrogène qui allaient très vite, qui allaient à la vitesse de la lumière, donc on n'a rien eu le temps d'étudier dessus. Et là, il y a tout un programme en développement au CERN pour fabriquer ces antihydrogènes à l'intérieur d'une bouteille et avoir tout loisir de les étudier. Alors, une autre question, c'est la matière et l'antimatière paraissent tout à fait symétriques, mais nous, on est quand même plutôt fait de matière, apparemment. Est-ce qu'il n'y a pas des dissymétries, quand même, quelque part, entre matière et antimatière? Et de fait, depuis 1964, on sait qu'il existe éventuellement une légère dissymétrie entre matière et antimatière. Et pour ça, je vais vous parler de l'expérience, justement, à laquelle j'ai participé, où j'ai, en quelque sorte, rencontré l'antimatière. C'est une expérience qui portait sur une particule qui s'appelle le kaon neutre. C'est une particule très étrange par ses propriétés, et elle est aussi très étrange déjà puisqu'elle est formée d'un quark et d'un antiquark, l'un des deux s'appelant justement le quark étrange, qui n'est pas dans notre matière ordinaire. Elle a une particularité, c'est qu'elle peut osciller entre l'état de matière et l'état d'antimatière. La matière que je note ici K0, puisqu'il n'y a pas de charge, et l'antimatière que je note K0 avec une barre au-dessus. Et on va comparer l'expérience dont je vais vous parler, qui est l'expérience Seppelir, a voulu étudier plus finement cette dissymétrie et aussi de façon plus directe. Et donc, on a comparé en fonction du temps quelle est la probabilité pour la matière de devenir de l'antimatière et le processus inverse, c'est-à-dire de l'antimatière qui se transforme en matière. Alors, pour ça, il fallait que l'expérience puisse étiqueter la matière et l'antimatière à deux instants différents. Alors, c'est-à-dire que quand vous avez des pots de confiture, il faut pouvoir mettre une étiquette, savoir si c'est des abricots ou des cerises. Là, il faut qu'on puisse, sur le dos de chaque caron neutre, au moment où il est créé et au moment où il se désintègre, lui mettre une étiquette sur le dos et dire « Ah, à ce moment-là, c'était de la matière ou c'était de l'antimatière ». Alors ça, on le fait au moment de la création, les produits par annihilation justement de protons et d'antiprotons au repos. On utilise un de ces faisceaux d'antiprotons de basse énergie. Et au moment de l'annihilation, eh bien, si c'est de la matière, on va avoir avec le caron neutre un autre caron chargé négativement, par exemple. Et s'il s'agit d'antimatière ici, on va avoir un caron chargé positivement. Au moment où il se désintègre, là aussi, si c'est de la matière, on va pouvoir observer un positon dans la désintégration. Si c'est de l'antimatière, on va observer un électron. Donc on voit que le signe des particules, de la charge électrique des particules chargées, va nous permettre de poser cette étiquette, c'est de la matière ou c'est de l'antimatière. Alors le détecteur qui a été construit, ici il est montré de face, c'est-à-dire, si on voit cette photo de plus près que tout à l'heure, si on le regarde comme ça, là, dans ce sens-là, eh bien, il ressemble au dessin qui est ici. Où vous voyez que ce dessin ressemble à un oignon qu'on aurait coupé en deux. Et de fait, il est constitué de cylindres emboîtés les uns dans les autres, comme des plures d'oignons ou comme des poupées matryushka russes, si vous voulez. Et la cible est au centre. Ici, il est vu de côté. Le faisceau d'antiprotons arrive ici, dans ce tuyau, et c'est calculé de telle sorte que les antiprotons vont s'arrêter ici, au centre de la cible, qui est de l'hydrogène gazeux à 16 atmosphères, et va s'annihiler juste au centre de cette cible. C'est ce qu'on voit ici. Ici, à ce point-là, au centre de la cible, protons, antiprotons s'annihilent et vont produire deux particules chargées et un caron neutre qui va se désintégrer à cet endroit-là et donner deux particules. Les charges positives, dans ce cas-là, tournent dans ce sens-là, parce que c'est dans un champ magnétique, tandis que les charges négatives tournent dans l'autre sens. Et donc, on identifie la matière, on peut savoir la matière qui devient de l'antimatière et vice-versa. La collaboration, donc, à construire ce détecteur comprenait une centaine de physiciens de 9 pays. Bon, juste pour la beauté, voilà justement quelques photos de l'intérieur de ce détecteur quand il était en cours de montage. On voit là un cylindre de scintillateur. Et le résultat qui a été obtenu est montré ici. Donc, ce résultat, c'est on compare donc les probabilités pour la matière de devenir de l'antimatière et on fait la différence avec la probabilité du phénomène inverse. S'il y avait une symétrie parfaite, on devrait trouver zéro, mais on trouve en fait quelque chose qui fait 7 millièmes de différence relative. Et c'est la matière qui l'emporte sur l'antimatière. Ce qui veut dire que si, au départ, avec mes annihilations protons-antiprotons, on fabrique autant de matière que d'antimatière, eh bien, après quelques temps, on se retrouve avec un petit peu plus de matière que d'antimatière. Alors, qu'en est-il donc de notre univers maintenant? Eh bien, dans notre univers, là aussi la question, est-ce que l'univers est vraiment fait que de matière? Bien, c'est toujours la même chose, matière plus antimatière vont s'annihiler si elles sont proches, donner de l'énergie et finalement des gammas, c'est-à-dire de la lumière ou des rayons X qu'on peut détecter. Alors c'est clair qu'autour de nous, c'est de la matière, que le système solaire, c'est de la matière aussi, on a pu aller sur la Lune sans qu'il se passe rien, on a envoyé des sondes vers Vénus, Mars, Jupiter, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Pour ce qui est de notre galaxie, des autres galaxies ou de l'univers entier, eh bien, on ne détecte jamais de lumière ou de rayons X, de photons gamma, de façon générale, qui signaleraient un endroit où il y a de l'antimatière et de la matière proche. Alors, la pensée générale est que notre univers est entièrement fait de matière. Ce n'est pas complètement sûr, puisqu'on peut penser que peut-être certains superamas de galaxies seraient faits d'antimatière et puis qu'on ne soit pas capable de détecter, parce qu'ils sont très loin, les photons qui seraient à la frontière avec la matière. Mais tout de même, c'est plus facile, finalement, d'essayer d'imaginer dans le Big Bang que de l'antimatière disparaît, plutôt que d'imaginer qu'elle se sépare dans l'espace. Alors, pour faire disparaître de l'antimatière. Dans le Big Bang, l'énergie donne autant de matière que d'antimatière. Il faut donc arriver à faire disparaître de l'antimatière pour que reste dans l'univers que de la matière. Pour ça, le physicien russe Sakharov avait proposé trois conditions qui sont toujours vraies. Il faut d'abord pouvoir transformer des quarks et des antiquarks en d'autres particules, qui ne soient pas les quarks et les antiquarks constituent les neutrons et les protons qui constituent eux-mêmes les noyaux des atomes. Il faut arriver à les transformer, par exemple, en électrons, en positons, des choses comme ça. Ça veut dire en particulier que le proton va pouvoir lui-même se désintégrer. Ça, c'est prédit dans les théories qu'on appelle les théories de grande unification. Mais c'est un phénomène qui est très rare. La durée de vie du proton était prédite de l'ordre de 10 puissance 31 années, c'est-à-dire 1 et 31 zéros fois des années. Et des expériences ont été faites pour essayer de mettre en évidence cette désintégration du proton. Elles ont donné une limite qui est même 10 fois supérieure à la prédiction des théoriciens, mais les théoriciens, à ce moment-là, évidemment, ils ont vu leur copie, ils ont dit « Oh, bah, ça peut être un peu plus grand aussi ». Alors, on n'a pas une vérification de ces prédictions, on n'a pas non plus une contradiction. Il faut aussi qu'au moment où cela se fait, il y ait une dissymétrie entre matière et antimatière, et c'est une dissymétrie du type de celle que je viens de vous montrer, qui a été observée pour le kaon neutre, qui est nécessaire. Donc là, on a les preuves expérimentales. Enfin, il faut que ce soit en présence d'un déséquilibre thermodynamique, que les choses ne puissent pas se rééquilibrer. Ça fonctionne aussi très bien dans les théories du Big Bang. Et alors, on arrive à quoi ? Eh bien, à ce qu'au moment où antiprotons et protons vont être en état de s'annihiler, eh bien, quand il y a 1 milliard d'antiprotons, on aura 1 milliard plus 1 proton. Et donc, quand ils vont s'annihiler dans le Big Bang, comme je vais le montrer, eh bien, il y en a 1 milliard qui vont s'annihiler, mais il restera 1 proton. Dans le Big Bang, ici, on ne les voit pas du tout. Au début, il se passe, on a uniquement des particules très massives ici, et puis entre un 10 milliardième de seconde et une seconde, on a peu à peu, les quarks se rassemblent pour faire des neutrons et des protons. À un moment donné, quand la température est suffisamment basse, eh bien, on ne créera plus de nouvelles paires de particules et d'antiparticules, il n'y aura plus assez d'énergie, et c'est à ce moment-là que va prendre place cette décroissance, cette annihilation entre les protons et les antiprotons, et à la fin, il nous reste donc 1 proton pour 1 milliard de protons et d'antiprotons qui existaient avant. Et c'est ce qu'on observe dans l'univers actuel, on observe effectivement qu'il y a 1 milliard de fois plus de photons dans le rayonnement qu'on appelle le rayonnement froid qu'il n'y a de protons et de neutrons dans l'univers. Alors, pour terminer, une question que l'on se pose quand même souvent, et si jamais un extraterrestre venait ? Il a l'air sympathique, il voudrait atterrir, serrer la main, savoir quel goût a le champagne. Que doit-on lui répondre ? Eh bien, bien qu'il ait l'air très gentil, et bien que je vous ai dit que je pensais que l'univers était entièrement fait de matière, je conseillerais quand même d'être méfiant et d'essayer quand même de s'assurer qu'il ne soit pas fait d'antimatière, sait-on jamais, parce que vous voyez un petit peu la rencontre pour boire le champagne, catastrophe, tout le monde explose, il n'y a plus d'extraterrestres et il n'y a plus personne non plus pour lui offrir le champagne. Donc pour ça, eh bien, il faut lui poser justement la question sur l'expérience que j'ai décrite, le kaon neutre. Le kaon, c'est facile, sa masse est la moitié de celle du proton et du neutron. C'est la seule particule comme ça, donc il peut très bien identifier dans son monde. Il faut lui demander si quand le kaon neutre se désintègre, est-ce qu'il a plus de positons ou plus d'électrons ? Chez nous, c'est plus de positons, c'est-à-dire l'électron qui n'est pas dans notre matière. Si chez lui, c'est celui qui est dans la matière dont il est fait, vous ne recevez pas. Voilà.
Je vois. J'aimerais savoir si les particules ou antiparticules, finalement, ont simplement une masse, une charge qui les différencie. Est-ce qu'on a un mécanisme qui explique finalement leur annihilation ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on a également une théorie qui, un peu comme en ce qui concerne les masses à propos du mécanisme de Higgs, précise finalement pourquoi on a des particules qui ont une charge, par exemple, de moins un tiers, plus deux tiers ou moins un ?
Alors, oh, c'est beaucoup de questions. Les particules, la conservation de la charge électrique, c'est une loi extrêmement forte auquel on croit très, très, très fort. Et donc, il y a toujours, quel que soit le processus, les charges la somme des charges électriques sera toujours la même, sera toujours conservée. La charge électrique négative, ben, je vous l'ai dit, ça vient de l'équation de Dirac en particulier, où on trouve qu'en effet, il faut avoir une particule et une antiparticule. L'annihilation, elle vient naturellement, et la matérialisation et l'annihilation, ça vient naturellement avec la loi d'Einstein. Le problème des charges un tiers des quarks, eh bien, on a pris comme convention au départ que l'électron avait une charge de moins 1. Les quarks, on a été obligé de leur attribuer des charges qui sont deux tiers ou moins un tiers. Mais la loi qui reste, c'est que les quarks ne peuvent se combiner que de telle sorte qu'ils forment un ensemble qui a une charge entière. Ça, c'est la loi, je dirais, de base dans la chromodynamique quantique.
Monsieur.
Bonjour, madame. Vous nous avez dit l'équation de Dirac suggérait une particule à énergie négative. Or, la masse de l'antimatière est positive, donc MC2 est positif, donc il n'y a pas d'énergie négative. Bon, deuxième question, vous répondrez très facilement. Dans le Big Bang, vous dites l'énergie donne la matière à l'antimatière. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette énergie ?
Alors, ça, là. Bon, la première question, c'était dans l'équation de Dirac, la deuxième solution, c'est soit une particule qui a une charge négative et une énergie négative, soit une particule qui a une charge positive et une énergie positive. Et en fait, on s'aperçoit que la vraie deuxième solution, c'est bien une particule qui a une charge positive et une énergie positive. Puisque c'est ce qu'on a observé. Maintenant, pour ce qui est du Big Bang, d'où vient l'énergie ? Alors là, adressez-vous à Dieu, ou à c'est ça.
Monsieur.
Premièrement, est-ce qu'il y a des antiatomes autres que l'antiatome d'hydrogène ? Deuxièmement, au sujet de la fixation de l'antimatière, est-ce que se fait plutôt sur tels organes plutôt que sur tel autre, ou bien sur tel tissu cancéreux plutôt que sur des tissus normaux ? Et troisièmement, pourquoi la matière l'emporte sur l'antimatière au point de vue... Qu'est-ce qui explique la dissymétrie, autrement dit ? Est-ce qu'il y a une théorie qui explique la dissymétrie ?
Alors, attendez, la première...
La première, c'est l'antiatome.
Ah oui, l'antiatome. Alors, on peut imaginer des antiatomes de n'importe quoi. Simplement, le plus simple qui soit, c'est l'antihydrogène. Et déjà, celui-là, on a un mal fou à le fabriquer. Donc, pour le moment, on ne s'intéresse réellement qu'à lui, parce que les autres, on sait vraiment pas les fabriquer. C'est encore beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut assembler plusieurs antiprotons et antineutrons, et ensuite capturer plusieurs positons. Donc, bien sûr, ça peut exister aussi, mais alors, on ne sait pas faire. La question maintenant sur l'application biologique, il n'y a aucune différence du fait que ce soit un fluor 18 qui est radioactif ou que ce soit un fluor 19. Ce qui fait que ça se fixe sur un organe ou sur une tumeur, c'est le fait que ça a été incorporé dans un composé chimique qui en l'occurrence était du glucose. Et selon le composé chimique que l'on va faire, ça va se fixer à des endroits différents. Alors, le fluor est commode dans le glucose, on utilise aussi beaucoup donc, le carbone, l'oxygène et l'azote qui sont très abondants dans notre corps. Ils se fixent exactement comme s'ils n'étaient pas radioactifs, il n'y a pas de différence.
Et le troisièmement, c'était pourquoi la dissymétrie ?
Alors pourquoi la dissymétrie ? Ben, on n'est pas vraiment capable de répondre. Tout ce que l'on peut dire, c'est que dans le modèle théorique qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui, qui s'appelle le modèle standard, du fait qu'on a en fait trois familles de particules, qui ont chacune deux quarks, eh bien, grâce à ça, on n'a pas de difficulté dans le modèle standard à rendre compte du fait qu'il y a une dissymétrie parce qu'on a un paramètre qui y correspond. Mais maintenant, pourquoi ce paramètre il n'est pas zéro ? Pourquoi il y a trois familles ? Pourquoi c'est possible ? On ne sait pas. Simplement, ça ne gêne pas la théorie, mais elle n'est pas capable de le prédire de façon correcte, de façon sérieuse.
Monsieur, tout en haut.
Je voudrais savoir s'il est concevable de réaliser dans le futur des faisceaux d'antimatière, un peu à la manière des lasers pour ce qui est de la lumière.
Ben, on a des faisceaux, là, je vous ai montré. Donc, on a des faisceaux d'antiprotons dans les anneaux de collision ou dans les accélérateurs. On a des faisceaux d'antiprotons de basse énergie qui sont extraits. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup, pour les fabriquer, vous avez vu, c'est pas l'encombrement d'un laser. Il faut tout plein d'anneaux successifs et assez encombrants.
Mais si on arrivait à le faire, est-ce que ça permettrait des applications beaucoup plus puissantes que le laser, par exemple?
Oui, il y a beaucoup d'énergie qui est contenue, donc ça a des potentialités très importantes, mais la difficulté, c'est le stockage qui est toujours très délicat, parce qu'en plus, il ne faut vraiment pas qu'il rencontre de matière, donc il faut un excellent vide, et il faut des potentiels qu'il maintienne, donc confinés sans qu'il touche les parois de la bouteille où on l'a mise.
Oui, bonjour madame. Le neutron étant une particule neutre, comment est défini un antineutron?
Il y a d'autres nombres quantiques que la charge électrique. Je n'ai parlé que de la charge électrique parce que c'est celle qui est la plus familière. Mais pour les particules neutres, il existe d'autres nombres quantiques. Par exemple, le nombre qu'on appelle le nombre baryonique. Ce nombre est de plus 1 pour le neutron et le proton, et il est de moins 1 pour l'antineutron et l'antiproton. Et donc, quand on fait les bilans, on arrive à distinguer matière et antimatière. On le voit aussi quand il interagit, parce qu'il va, il faut toujours conserver un bilan de matière-antimatière qui s'est conservé. Si je pars d'une particule et d'une antiparticule, après, je dois avoir que de l'énergie ou que des paires particules-antiparticules. Mais à cause de ça, on arrive à le distinguer. Mais c'est plus difficile, c'est pour ça qu'il a été découvert qu'un an après, l'antiproton.
Madame.
Pensez-vous des trous noirs?
Tout en haut.
Je suis là. Ah. Que pensez-vous des trous noirs?
Les trous noirs, ils peuvent avoir, ils ont une particularité, c'est que on peut dire si un trou noir, quelle est sa masse, on peut dire quel est son mouvement de sa rotation, disons son énergie de rotation, on peut dire quelle est sa charge électrique. On ne peut absolument pas dire s'il est fait de matière ou d'antimatière. Donc c'est à ce point de vue très spécial. On est incapable de faire un bilan pour dire le trou noir c'est de la matière très dense ou c'est de l'antimatière très dense ou c'est un mélange, on ne peut pas le dire.
Monsieur.
Oui, quelle est la spécificité du photon qui fait qu'il est lui-même son propre antiparticule?
C'est que tous les nombres quantiques sont nuls. Donc, ils sont tous égaux dans la particule et dans l'antiparticule. Il n'a pas de charge électrique, mais les autres nombres quantiques qui le définissent, son nombre baryonique, dont on a parlé là à l'instant, c'est zéro aussi, et tous ces nombres quantiques sont nuls.
Il y a des questions là, ici, dans le... Il y a trois questions, je crois qu'on s'en tiendra là, mais il y en a trois. Avec ces personnes. Voilà.
Bonjour. Je voudrais savoir comment faites-vous pour stocker des particules neutres comme les neutrons ou les antihydrogènes.
Ah, oui,
et comment les diriger aussi?
Oui, ça c'est très difficile et c'est un des grands problèmes du programme antihydrogène du CERN. C'est qu'au départ, ils vont être utilisés des bouteilles électromagnétiques, des pièges électromagnétiques comme j'ai décrit, dans lesquels on sait stocker les antiprotons, on sait également y stocker les positons et les physiciens qui font ce programme ont bon espoir d'arriver à faire de l'antihydrogène. La difficulté, c'est qu'au moment où on fait de l'antihydrogène qui est neutre, lui n'est plus stocké dans le même type de piège. On est aussi capable quand même de le stocker, en particulier avec des pièges avec des lasers. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a un passage d'un type de piège à un autre.
J'aimerais vous faire part d'un article que j'ai lu dans une revue scientifique, qui disait que deux chercheurs suédois avaient réussi à faire coexister pendant un court instant un antiatome d'hydrogène et un atome d'hydrogène sans que les deux s'annihilent. Quel est votre sentiment sur cette expérience qui n'a pas encore été vérifiée? Mais cela est-il plausible ou l'annihilation résulte-t-elle automatiquement de la rencontre de la matière avec une antiparticule?
Quand elles sont à l'arrêt et qu'elles sont proches, elles s'annihilent en général très rapidement. D'autant plus que, au moins quand c'est de la... Avec l'antihydrogène, ça pourrait être effectivement différent. Quand ce sont des particules qui ont une charge électrique, de toute façon, elles s'attirent, du coup, puisqu'elles ont des charges électriques opposées. Avec l'antihydrogène, je ne sais pas, mais... Je n'ai pas vu cet article, mais les Suédois, je sais qu'ils savent, justement, ils ont réussi à faire de l'hydrogène en partant de protons et d'électrons, ce qui est, a priori, la même méthode qu'il va falloir appliquer pour l'antihydrogène et les positons, mais je n'ai pas entendu dire qu'ils aient encore fait des antihydrogènes. Mais... Le programme, parce que le programme au CERN d'antiprotons pour faire ces antihydrogènes vient de démarrer, il y a le premier faisceau, parce que l'installation a été refaite par rapport à celle que je vous ai montrée. Le premier faisceau a été il y a 8 ou 15 jours.
Monsieur...
Physical review letters.
Oui, mais alors, je ne pense pas que ce soit expérimental. Oui, je n'ai pas fait attention, mais je ne pense pas que ce soit expérimental. Je pense que c'est une... Au niveau de l'antihydrogène, je pense que c'est plutôt une prédiction.
Voilà, une dernière question, monsieur.
Bonjour. Vous nous avez dit que le photon et l'antiphoton étaient identiques, et vous avez parlé de détection d'antimatière à partir des photons. Donc comment pouvez-vous savoir qu'il est originaire d'une antimatière ?
Ce n'est pas l'antimatière elle-même que l'on détecte, parce que justement, comme vous le dites, si on a un amas de galaxies qui est fait d'antimatière, la lumière qui va nous parvenir sera la même que celle qui vient d'un amas de galaxies de matière. Ce que l'on peut détecter, c'est la frontière entre les deux. Si vous avez un endroit de l'antimatière et un autre de la matière, il y a éventuellement un endroit où il y a tout de même un petit peu des deux. Parce que ils vont s'étendre, et il y a un moment où les deux nuages de matière et d'antimatière vont se toucher. À cet endroit-là, on aura beaucoup de gamma qui montreront qu'il y a là une zone où il y a à la fois de la matière et de l'antimatière. C'est ça qu'on espère détecter.
D'accord. Merci beaucoup.